Jeudi, le journal La Croix a publié le baromètre sur la confiance des Français dans les médias. Alors comme pressenti, les résultats ne sont pas très bons, avec une crédibilité à la baisse et une indépendance à l'égard des pouvoirs économiques et politiques jugés insuffisantes, comme nous le disait encore sur ce plateau la journaliste Aude Lancelin samedi dernier. Alors comment faire pour renouer le lien entre les citoyens et les journalistes? Est-ce que ces derniers doivent changer leur manière de concevoir et d'exercer la profession s'ils ne sont plus les seuls à donner, à voir, à entendre, à sentir, à connaître l'actualité? Alors comment repenser leur fonction pour être de bons narrateurs du monde? Second volet de la fabrique médiatique aujourd'hui sur la défiance envers les médias, les solutions avec nos deux invités en duplex de France Bleu Gironde à Bordeaux. Anne-Sophie Novel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, vous avez travaillé pour Le Monde, Le 1, LCI, Public Sénat ou encore Hebdo, Feu Hebdo. Vous êtes l'auteur d'un documentaire sur la relation des Français aux médias et sur les pistes pour changer de modèle. Un documentaire intitulé « Les médias, le monde et moi » qu'on pourra voir à partir de lundi sur DoxTV. DoxTV, c'est une plateforme de documentaires en VOD avant une diffusion, on l'espère, sur une chaîne de télévision française. Et c'est un documentaire qui fera aussi l'objet d'un livre chez Actes Sud. Et puis, en studio avec nous ici à Paris, Sylvain Bourmeau, bonjour.
Bonjour.
Producteur à France Culture, directeur du site en ligne AOC. Vous avez, vous, été journaliste aux Inrecuptibles, à Libération, à Mediapart. AOC fête son premier anniversaire avec la publication d'un cahier qui réunit 30 auteurs sur le mouvement des Gilets jaunes, un livre édité aux éditions La Découverte. Alors avec ce baromètre transparaît deux choses. D'abord une demande d'évolution dans le mode de traitement et puis peut-être aussi dans la hiérarchie de l'information. Est-ce qu'au fond on pourrait pas dire que les Français ne se sentent plus représentés par leurs médias? Sylvain Bourmeau.
Oui, il y a sans doute quelque chose de ça, même s'il y a une certaine naïveté dans ces critiques. Mais je crois qu'on ne peut pas comprendre cette crise, cette défiance à l'endroit des médias si on ne la regarde pas en même temps avec l'autre manifestation de défiance dont fait preuve ce mouvement des Gilets jaunes, qui est une défiance à l'endroit des responsables politiques. Pour moi, c'est les deux faces de la même médaille, au fond. Ça pointe quoi? Ça pointe qu'il y a quelque chose comme un monde politico-médiatique qui fonctionne un peu trop en vase clos, sur lui-même. Au fond, cette crise peut s'interpréter comme une crise du traitement professionnel de la politique. Ce traitement, il peut être le fait des élus, des responsables politiques professionnels, mais aussi des journalistes qui professionnellement traitent la politique. Et je crois que ce qui est cassé, c'est cette chose commune, c'est-à-dire le fait que les responsables politiques ont peu à peu, au fil du temps, et ça a pris plus d'un siècle, acquis une forme de monopole professionnel de la politique. Et dans le même temps, les journalistes professionnels, avec leur carte bleu-blanc-rouge, ont progressivement acquis une forme de monopole du journalisme. Or, tout ça est en train de céder, notamment avec les réseaux sociaux, puisqu'on le sait, chacun a la possibilité de devenir un média personnel. Alors, moi, je suis très attaché à un certain nombre de principes importants pour la profession journalistique. Je ne suis pas en train de plaider pour un monde dans lequel tout le monde pourrait prétendre être journaliste. Je crois qu'il faut qu'on ait des journalistes professionnels. C'est absolument indispensable au bon fonctionnement de l'espace public. Mais on ne peut pas non plus, quand on est un journaliste professionnel, prétendre avoir le monopole du journalisme. Et c'est tout l'enjeu éditorial d'AOC depuis le début, et je dirais que le mouvement des Gilets jaunes nous a donné l'occasion de le démontrer en acte, c'est-à-dire de partager le journalisme avec d'autres que des journalistes professionnels, de faire en sorte que des gens qui ont des compétences de connaissances et des compétences d'expression de ces connaissances, en grande partie des chercheurs, mais aussi des écrivains, puissent prendre leur part du journalisme, car comme l'a bien dit Pierre Rosanvallon depuis très longtemps, le journalisme ne peut pas être réduit à un métier. C'est une fonction sociale absolument indispensable à la bonne marche de l'espace public dans une démocratie.
Anne-Sophie Novel.
J'approuve en fait ce que nous explique Sylvain Bourmeau, bien entendu. L'intérêt aujourd'hui, c'est peut-être de questionner certains réflexes. C'est vrai que dans les rédactions, quand on est journaliste politique, on est un petit peu tout puissant. Ça a toujours été comme ça. Moi, je l'ai vécu étant journaliste spécialisé sur les questions d'environnement. On passe souvent à la traîne, c'est en train de changer. Mais il y a aussi un fonctionnement intrinsèque aux rédactions qu'il est nécessaire de remettre en cause. Et quand je parle de réflexes, c'est peut-être parfois la sensation qu'il faut commenter le dernier tweet publié par tel ministre ou tel député qui va s'attarder sur des choses qui en fait ne font que produire du vide médiatique. Et une fois qu'on a produit ce vide, on laisse les gens désemparés avec une sensation que la politique, on peut tous les mettre dans le même sac, et les journalistes de fait, à force de se complaire sur cette scène politico-médiatique, finissent aussi d'être accusés de complaisance et de proximité de ces sphères-là sans regard critique. Et je voyais une interview l'autre jour d'une consoeur directrice de rédaction qui répondait à une interview. On lui demandait si vous aviez 48 heures pour vous mettre dans la peau de quelqu'un aujourd'hui, il s'agirait de qui? Elle répond Emmanuel Macron. Alors ça m'a fait rire, je me suis dit en effet j'aimerais bien savoir comment il réfléchit aujourd'hui avec cette crise, mais est-ce que c'est vraiment vers lui que les gens ont envie de s'intéresser, d'être dans la tête du président? Peut-être qu'il faudrait qu'en tant que journaliste on aille passer 48 heures dans la vie de ces gens qui sont en train de se mobiliser et qui en ont vraiment ras-le-bol.
Vous diriez, Anne-Sophie Novel, comme Sylvain Bourmeau, que les journalistes ont rompu avec leur mission de représentation?
Je sais pas s'ils ont rompu, je pense que c'est pas quelque chose d'assumé, je pense que c'est plutôt quelque chose de subi, parce que avec l'épuisement des moyens financiers, avec la vitesse que nous demande Internet en termes de réactivité, les conditions de travail des journalistes se sont profondément modifiées. Donc beaucoup survit. Moi, je parle beaucoup de journalistes Shiva à qui on demande de tout faire. On n'a plus forcément la possibilité de prendre du temps. Donc il faut déjà remettre à plat ce mode de fonctionnement tant que possible. Mais après, en effet, je pense que sur la posture journalistique en tant que telle, c'est un peu parfois l'idée qu'on ne peut pas remettre en cause le journaliste dans sa façon de travailler. Et moi, je m'érige, alors je ne sais pas, je n'ai pas fait d'école, je me suis débrouillée dans mon parcours journalistique pour y arriver par d'autres moyens, mais toujours, je me suis dit, peut-être que dans un monde qui a été complètement transformé, nous sommes maintenant au 21e siècle, les jeunes d'aujourd'hui sont nés au 21e siècle, on fonctionne différemment, on réfléchit différemment, et donc la posture du journaliste a été transformée, j'ai envie de dire, de manière technique, mécanique, parce que ses outils ont été modifiés, mais sociétalement, il y a une posture qui doit changer. On ne peut plus juste être le reflet du monde au présent tel qu'on l'a toujours été. Je pense que pour sortir un peu de la mêlée et aider le public à y voir clair dans un monde de plus en plus complexe, la posture doit aussi s'intéresser à ce qu'il vient. Et donc, ça demande d'être un peu plus dans la prospective, d'aller fouiller, d'aller enquêter aussi, de manière un peu différente. Et ça, je suis convaincue qu'en donnant ce regard un peu neuf sur le monde, on aidera les gens à être un peu plus en capacité d'agir sur ce qui se passe.
Et de partager, disiez-vous, Sylvain Bourmeau, partager cette fonction justement de représentation. D'ailleurs, à l'instar de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde politique, effectivement, ce qu'on voit ressortir, alors non seulement du baromètre de confiance de la Croix, mais aussi des sondages, mais aussi des enquêtes, mais aussi des reportages qu'on peut lire et qu'on peut voir un peu partout, cette demande croissante de participation des citoyens, justement, à cette fonction de journalisme. Vous dites, dans AOC, justement, vous avez donné la parole, en partageant cette fonction, à des intellectuels, à des écrivains, à des chercheurs. Mais en quoi les chercheurs font-ils travail de journalisme? En quoi faire intervenir des chercheurs, c'est participer d'améliorer le journalisme?
Alors, c'est très important de placé du point de vue de l'amélioration du journalisme. Il ne s'agit pas de remplacer le journalisme professionnel. Je ne crois pas non plus à quelque chose qui est très à la mode depuis quelques années, qu'on a appelé le journalisme de solution. Je crois au contraire à l'inverse, c'est-à-dire à un journalisme d'hypothèse, pourrait-on dire. Et ce que propose AOC, c'est un journalisme d'hypothèse. C'est-à-dire que c'est évident que les chercheurs n'ont pas pu encore travailler sur le mouvement des Gilets jaunes au sens où ils travaillent habituellement. Ils n'ont pas eu le temps de mener des enquêtes. Mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont rien à dire. Ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent formuler, ce sont des hypothèses. Hypothèses formulées sur la base des recherches antérieures qu'ils ont pu mener sur des mouvements en partie comparables. C'est comme ça que procède la démarche scientifique. On fait des hypothèses et puis après on essaye de les vérifier ou de les réfuter. Ce moment de l'hypothèse est quelque chose qui est trop souvent oublié dans la pratique journalistique. Les journalistes aiment bien ne pas s'encombrer d'hypothèses. Ils pensent, un peu naïvement parfois, qu'il vaut mieux même carrément arriver sur le terrain sans trop savoir ce qui se passe pour avoir un regard neuf qui sera plus précis. Je pense que c'est s'illusionner. Depuis très longtemps, la philosophie des sciences nous a montré qu'au contraire, il valait mieux être un peu conscient de ce qu'on savait avant pour tenter de le neutraliser, plutôt que de refouler dans l'inconscient tout ça. Donc je crois que ce journalisme d'hypothèse, qui est une forme journalistique particulière que les chercheurs ou les écrivains peuvent apporter à un moment donné en acceptant de se placer face au présent dans cette temporalité qui n'est pas la leur habituellement, nous est extraordinairement précieuse. Parce que ça permet quoi? Ça permet pas d'apporter des réponses, des solutions. Ça permet de reformuler les questions. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'apprendre à nous rendre compte que la même question peut être posée de manière extraordinairement différente, qu'il n'y a pas une seule façon de poser les questions. Ça permet de renvoyer au grand débat. C'est pas à travers un QCM qu'on va résoudre la crise. C'est pas en ayant des questions fermées qu'on va résoudre cette grave crise démocratique. C'est en multipliant les questions. Ne brûlons pas les étapes. Prenons le temps de reformuler les questions. Et c'est à ça que peuvent nous aider les écrivains et les chercheurs.
Mais ce mélange des genres, d'ailleurs, est-ce que on peut vous poser la question, puisqu'on est vraiment samedi matin après la tenue de deux émissions de débat à la télévision sur France de jeudi soir, hier soir, sur C8. Est-ce que ce sont de bons dispositifs, de bonnes initiatives? Est-ce que ça fait honneur au métier de journaliste alors pas sur le fond, hein, mais sur le dispositif, justement, de mélanger, de participer au débat, voire même, au même titre que les politiques, d'organiser des débats comme ça? Sylvain Bourmont?
Non, parce que là, il faut interroger les dispositifs de mise en scène télévisuelle en particulier, qui prévalent depuis une trentaine d'années et qui ne sont pas pour rien dans la violence qu'on observe à l'endroit des médias dans ce mouvement des Gilets jaunes. Parce que derrière, il y a des modèles économiques. On est entré, comme le dit Christian Salmon, dans l'ère du clash. Moi, je dirais même parfois dans l'ère du catch, c'est-à-dire de matchs truqués, de fausses violences fabriquées. Beaucoup d'émissions de télévision fonctionnent sur ce dispositif, en particulier les chaînes de télévision d'information continue qui font des battles d'opinion à longueur de journée. Et je ne crois pas que ce soit parce qu'on oppose des gens qui se clashent aussi frontalement qu'on parvient à produire de l'objectivité. Je crois au contraire qu'il faudrait faire l'histoire au fond de ces dispositifs télévisuels depuis les premières émissions de Chavanne avec Baffi à ses côtés jusqu'à Cyril Hanouna aujourd'hui pour expliquer comment la télévision a encouragé quelque chose de très pervers dans le rapport que les téléspectateurs entretiennent avec elle, c'est-à-dire que ces gens se sont mis à adorer, détester, regarder la télévision. Et donc c'est pas avec l'audimat qu'on mesure cette relation de défiance, parce que vous pouvez avoir un audimat fort, mais vous pouvez avoir des gens extraordinairement critiques face à ce qu'ils ont regardé en masse.
Et c'est aussi ce qui ressort d'ailleurs du baromètre de confiance de la Croix. Anne-Sophie Novel.
J'ai envie de dire que moi, dans l'enquête que j'ai menée, j'ai réalisé quelque chose. Un de mes points de départ a été de dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans les médias, on parle plus de Nabila, d'Hanouna que du climat. C'était une de mes premières questions. À force de débattre avec la communauté autour du film, j'en suis arrivée à une petite conclusion très simple, que dans notre consommation d'informations, il y a des gens qui travaillent toute la journée sur des choses difficiles, qui rentrent chez eux, qui se mettent devant la télé juste pour se vider la tête. Il y en a d'autres qui ont des boulots qui sont un peu contraignants et qui le soir vont peut-être allumer leur télé pour se renseigner. Les médias sont nuancés et on trouve de tout en fait. Donc c'est à chacun maintenant de cultiver son hygiène informationnelle. Donc la critique vis-à-vis de ce qu'on nous propose peut aussi s'enrichir d'une consommation à la carte de programmes journalistiques très différents et qui permettent aussi d'accéder à l'information de manière différente. Donc concernant le grand débat chez Hanouna, moi la seule question que j'avais c'était est-ce que c'était le bon endroit, si c'est une émission que les gens regardent pour se détendre, être dans le divertissement, etc. Je sais pas si j'aurais été là. Mais après, le secrétaire d'État qui l'a fait était blogueuse avant d'être secrétaire d'État. Elle s'est très bien jouée de ses dispositifs aussi. Donc voilà. C'est en effet cette machine médiatique. Bourdieu l'avait bien décrite. Le rôle de la télé, en effet, est très accusé. Mais les jeunes aujourd'hui regardent la télé en différé, vont se renseigner sur le web. Et il y a plein de choses qui émergent à cet endroit-là aussi et qui permettent de s'informer autrement. Et ça, faut vraiment le regarder de très près.
Anne-Sophie Novel, dans votre enquête aussi, ce que vous montrez bien, c'est la façon dont on peut justement repenser les pratiques. Alors, je parlais de la demande de participation des lecteurs quand il s'agit de la presse écrite. Racontez-nous l'expérience que vous avez vue et vécue à Nice Matin, par exemple. Alors là, c'est pas des chercheurs, c'est pas des écrivains, c'est pas des intellectuels, mais c'est tout simplement des lecteurs lambda, des citoyens comme vous et moi.
Nice Matin, donc, est un journal de presse quotidienne régionale papier qui vit surtout sur des personnes abonnées qui vieillissent et donc a développé aussi une offre numérique en parallèle. En 3 ans, depuis 2015, ils ont multiplié par 9 leur nombre d'abonnés, en justement développant une ligne éditoriale un peu différente, en ouvrant leur rédaction et en disant, voilà, après, alors ils ont mis beaucoup de choses en place, mais après un comité de rédaction, on a 3 idées de sujets, allons soumettre ça à nos abonnés. Ça ne veut pas dire qu'on ne choisira que le sujet qui a été privilégié, mais ce sujet privilégié fera l'objet d'un dossier et les autres sujets, on pourra toujours les reproposer ou les traiter de manière plus mineure. Et systématiquement, pendant 2 ans, Damien Allemand, qui a mis tout ce dispositif en place, explique qu'ils se sont plantés. C'est-à-dire qu'en tant que journaliste, ils devinaient à chaque fois le mauvais sujet. Et après, ils ont eu une autre approche, c'est-à-dire sur des sujets qui viennent de manière récurrente, polémique dans la région. Par exemple, l'exemple du loup. Ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'il y avait un article, c'était systématiquement en stigmatisant la position des éleveurs et la position des pro-loups, des anti-loups. Et là, ils se sont dit peut-être qu'on devrait regarder le problème différemment, aller enquêter en Italie, donc juste le côté de la frontière, parce que là-bas, il y a aussi des loups, mais on n'est pas soumis aux mêmes polémiques. Pourquoi ? Et donc, ils ont envoyé, je crois, 2 journalistes sur place qui ont été enquêtés, qui sont revenus avec un article qui détaillait comment ça se passait de l'autre côté de la frontière. Et Damien Allemand expliquait que, du coup, en commentaire sous cet article, qui a été le plus partagé sur leur site, site en 2016, les gens n'étaient plus dans des postures agressives, à s'énerver entre eux, à se disputer, mais plutôt à discuter de ce qui avait été évoqué par les journalistes. Et donc là, on est dans une posture plus constructive. Sur le journalisme de solution, on pourrait en parler longtemps. Je pense que ça a été très mal compris, en tout cas en France depuis 15 ans. C'est pour ça que j'ai été aux États-Unis voir comment les chercheurs américains, les journalistes américains se positionnent par rapport à cette nouvelle forme de journalisme pour essayer de comprendre comment il est formulé de manière rigoureuse, pas juste pour mettre en avant des initiatives, mais pour étudier la façon dont les gens pensent les plaies du monde.
Et puis ce journalisme contributif qui fait parfois choisir les sujets en fonction des envies des gens et des lecteurs, c'est aussi ce que voulait faire Hebdo, un journalisme plus de proximité en fonction des attentes des uns et des autres. Et d'ailleurs, vous y avez contribué, Anne-Sophie Novel. Sylvain Bourmeau.
Oui, moi j'aurais envie de dire que le bon journalisme de solution, c'est un journalisme de problème en fait. C'est-à-dire que là, et c'est pas étonnant qu'aux États-Unis ça se passe comme ça, parce que c'est le propre de la tradition philosophique dominante aux États-Unis, le pragmatisme. C'est-à-dire que on invite tout le monde à mener collectivement des enquêtes, à être capable de se poser la question de savoir quel est le problème. Quel est le problème? C'est la première question qu'on doit se poser autour d'une table, s'il y a un problème de loup, un problème de partage des ressources, un problème quel qu'il soit. C'est comme ça que fonctionnent les espaces publics, quelle que soit leur taille. Et cette façon de raisonner, elle est très profondément inscrite dans la culture politique et médiatique américaine. On la connaît pas en France, où on a tendance à tout imposer par le haut. C'est par exemple la position que défend le grand philosophe et anthropologue Bruno Latour, qui s'inscrit dans cette tradition-là. Et on publie un texte dans le Cahier AOC de lui. Il dit « C'est une chance ce mouvement des Gilets jaunes pour peu que ce débat s'ouvre de la manière et qu'on accepte de pas brûler les étapes, qu'on accepte d'en passer par ce moment qui prendra du temps. » Dans lequel il s'agit pas comme ça à la fin de la journée d'avoir une liste de solutions ou de cocher des cases, mais d'être capable de décrire les doléances. C'est ça, c'est pas je veux ça, c'est quel est mon problème et quels sont nos problèmes collectifs. Si chacun est capable de mieux caractériser son problème ou ses problèmes s'ils sont plusieurs, ça nous fera grandement avancer. Et je pense que le journalisme a un rôle à jouer dans l'organisation de ce type de débat, à condition d'associer des types de populations aux enquêtes elles-mêmes. Et pas simplement pour faire parler les gens en ouvrant et en fermant des guillemets, en les associant véritablement au processus de connaissance.
Anne-Sophie Novel, c'est une chance pour les médias, cette crise de confiance, paradoxalement?
Oh bah oui, enfin, en même temps, c'est quelque chose qui était là en sourdine depuis longtemps. Là, ça éclate au grand jour parce qu'il y a un ras-le-bol qui n'en peut plus. Et puis ça a été poussé, je pense, aussi par ce qui se passe aux États-Unis, au Brésil ou ailleurs. C'est-à-dire avec maintenant des représentants politiques qui s'en prennent aux journalistes. Donc dans cette ère de... Alors, certains disent post-vérité, mais aussi post-news, il y a beaucoup de cartes qui doivent être rebattues. Mais sur le journalisme de solution, moi, il y a un terme que j'aime bien, c'est le journalisme d'issue. C'est-à-dire que c'est un terme issu qui, en anglais comme en français, sonne différemment et qui explique bien que l'un ne va pas sans l'autre. Il s'agit en effet de bien expliquer les problèmes, mais surtout éclairer d'autres possibles. Je crois que moi, dans ce que j'ai pu observer, les gens en ont marre qu'on insiste, qu'on pointe du doigt en permanence ce qui ne va pas, qu'on fasse du sensationnalisme, qu'on répète ça à longueur de temps. Et du coup, on en ressort en étant plombé, impuissant. On a juste envie de couper et on n'a plus envie de s'impliquer dans ce qui se passe dans la marche du monde. Et notre rôle en tant que journaliste, c'est de retisser ce lien, d'être des médiateurs. Il faut cesser d'être vu comme des médias menteurs, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est ces deux revers de la médaille. Et qu'en effet, ça doit s'enrichir aussi d'autres visions. Le récit journalistique aujourd'hui doit faire appel à tous les acteurs de la société, qu'ils soient citoyens, qu'ils soient romanciers, qu'ils soient artistes, qu'ils soient voilà, de différents horizons. Et donc la participation du public, elle peut arriver de plein de manières. Moi, j'étais voir à l'étranger, mais en France, il y a plein de tentatives. C'est ça qui est enthousiasmant, c'est qu'il y a plein de médias qui se sont créés récemment. Ça marche pour certains, ça ne marche pas comme pour Hebdo. Ça, c'est des questions de mise en place par la suite. Mais il y a une vraie attente. Et ça, je pense qu'il y a un champ libre très enthousiasmant pour réinventer les pratiques.
Oui, c'est-à-dire le paradoxe principal, c'est une crédibilité à la baisse, mais en même temps, on voit un vrai appétit, une vraie demande de compréhension
totalement
du monde, un vrai intérêt en hausse pour l'actualité. Donc on peut voir à chaque fois le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Merci beaucoup à tous les deux, Anne-Sophie Novel
Merci.
Et Sylvain Bourmeau, d'avoir Merci. Participé à cette fabrique médiatique.